La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Il est temps de reprendre notre excursion panoramique dans le dictionnaire des titres de jazz. Et aujourd'hui, grand événement, nous allons mettre fin à la lettre T.
Il y en avait un paquet, hein, souvenez-vous.
Ah oui, ça, il y en avait un paquet.
Et puis, de la lettre T, bah, bien sûr, on va passer au U.
Et oui, mais le U sera relativement court et la présente émission va se terminer en V. V comme verre d'eau. Mais on n'a pas trouvé de titre, nous sommes dedans.
Ou comme Viva la planète du jazz.
Ou comme Vine Street Ramble. Et ça, nous allons en reparler tout à l'heure.
Mais d'abord, l'été.
L'été. D'ailleurs, l'été s'annonce pas mal, hein, vu le temps qu'il fait, c'est wow. Pas mal du tout. T comme tortue et T comme...
Turtle twist.
Il y a deux T d'ailleurs, hein. Il y a deux T. Et ça tombe très bien puisqu'il est pratiquement l'heure du T, hein, pour vous.
Nous n'hésitons devant aucune astuce de langage.
Jelly Roll Morton non plus d'ailleurs, puisque le morceau qui vient est de lui. Et ce turtle twist est en fait une danse.
On se pose bien la question... Comment on peut faire une danse imitant la tortue? Parce qu'on ne peut pas vraiment dire que ce soit un animal particulièrement bondissant, n'est-ce pas?
C'était une danse sur laquelle on n'a absolument pas de détails, ni de photos, ni de films, puisque c'est quand même à une époque où on filmait très peu ces choses-là. En tout cas, les danses imitant des animaux sont nombreuses dans le jazz et il nous vient à l'esprit, par exemple, Bunny Hug, l'étreinte du lapin, là, sans commentaire. Le Turkey Trot, c'est-à-dire la démarche de la dinde.
Qui est particulièrement gracieuse, comme chacun sait.
Et puis le plus répandu de tous à l'époque où on dansait le jazz, le fameux foxtrot, hein, la démarche du renard. Et ce cher Jelly Roll, d'ailleurs, il a fait souvent appel à la fois aux animaux et aux astuces de langage, puisqu'un de ses morceaux les plus fameux s'appelle « The Animal Ball », c'est-à-dire « Au bal des animaux
bon, », pourrait-on d'accord. dire.
En attendant, voici Turtle Twist, et c'est un trio.
Trois copains de la Nouvelle-Orléans.
Barney Bigard à la clarinette, Zooty Singleton à la batterie, qui est absolument fabuleux dans ce disque, et puis le maître de la séance.
Jelly lui-même.
Et quand on dit trois copains, faut mettre un petit bémol, car monsieur Jelly Roll Morton, alias Ferdinand Lamotte, avait pas vraiment tendance à se mélanger facilement.
Thank you.
avez remarqué que c'est quand même un morceau plutôt plan-plan, vous voyez.
La danse de la tortue n'est pas vraiment une danse violente. Le morceau suivant s'appelle « Tuxedo Junction ».
Et il a toute une histoire.
Ah, toute une histoire.
C'est un morceau joué par l'orchestre de Erskine Hawkins.
Orchestre qui fut tiré de son Alabama par les perspectives offertes par la grande époque de Harlem, et qui d'ailleurs termina son voyage finalement au Savoy Ballroom, où il devint un des orchestres maison.
Mais en attendant, on va vous décortiquer un peu le titre.
Ah oui, parce que Tuxedo Junction, c'est le carrefour Tuxedo. C'est un carrefour au sens de correspondance. Mais c'était aussi un carrefour, naturellement, de deux grandes artères. Pour être tout à fait précis, ça se passait dans l'Alabama à Birmingham. Et les artères en question étaient l'avenue Hensley et la 20e rue.
Mais il y avait une autre indication avec ce Junction, c'était à propos des trains.
C'était une correspondance entre des trains de banlieue. Il y avait celui qui arrivait de la banlieue industrielle où le travailleur travaillait et celui qui partait vers la banlieue résidentielle où les travailleurs résidaient. Mais
entre-temps, il y avait un battement. Pendant ce temps d'attente, il y a des gens un peu malins qui se sont dit « Mais ces gens-là, on va les occuper. »
On va les inciter à organiser leur attente pour qu'elles s'étirent et qu'ils aillent s'amuser. Le problème, c'est qu'on peut difficilement s'amuser en bleu de travail et les mains pleines de cambouis jusqu'au coude.
Donc, il y avait quelqu'un qui a ouvert un établissement où on leur louait pour l'instant pratiquement, des costumes de fête. Et vous savez qu'en Amérique, on ne dit pas un smoking, mais on dit un tuxedo.
Et ce petit malin-là, il avait inventé non seulement de louer des habits de fête, mais tout ce qu'il fallait pour se laver, pour déposer les habits de travail, enfin bref, c'était la totale.
Donc le travailleur, tout sale, tout noir, sortait pimpant comme sorti d'une boîte, ouais, avec son tuxedo.
Avec son tuxedo, et avant de revenir sur place pour renfiler d'autres habits et rentrer chez lui, il profitait de son tuxedo, de son prestige et de toutes les possibilités de la ville pour aller s'en payer, disons-le, une bonne tranche.
Et bien sûr, ils allaient danser. Hein, ça va de soi.
Évidemment, et donc ce carrefour est devenu célèbre sous le nom de Carrefour Tuxedo, ou pour les trains, la correspondance Tuxedo. Et Erskine Hawkins en a fait son indicatif, puisque donc, tout cet orchestre venait au départ de Birmingham dans l'Alabama. Et ce morceau est devenu d'ailleurs un standard du jazz, il est très connu, et il a fait connaître notamment un fameux trompettiste qui s'appelait Dud Bascombe, et que nous avons connu, qui était un type très sympathique.
Thank you.
un bon trompette, là.
Eh oui, ce cher Dud Bascombe, de qui d'ailleurs nous tenons toute cette histoire. En voici maintenant une autre, elle est très courte, c'est une autre rue. Elle est à Kansas City et c'est la 12e rue de Kansas City. C'est une des rues les plus passantes, les plus importantes des faubourgs de Kansas City.
Ce morceau, c'est un standard du Charleston.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous le passe, parce qu'il n'a pas à proprement parler d'histoire, parce que c'est une rue passante, voilà. Quelqu'un a eu un bon souvenir là-dedans, où il y avait une boîte, où on ne sait pas très bien. Mais le morceau lui-même est intéressant parce qu'il est très 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 connu et on ne pouvait quand même pas franchir la lettre T sans ce 12th Street Rag. Et nous avons choisi une version très originale, jouée avec beaucoup de finesse par...
Qui voulez-vous? Le plus grand,
le roi.
Louis Armstrong.
Lui-même. Le morceau suivant est de Duke Ellington, mais je vais te laisser le soin d'annoncer le titre, je sens que je ne vais pas y arriver.
Deux petits mots, tweets and twerps. Alors, tweet, ça veut dire quelqu'un qui est nul.
Ah oui, c'est vraiment le nul.
L'imbécile.
Le gros nul, là, voilà.
Et puis twerps, c'est celui qui est non seulement bête, mais en plus pénible, désagréable.
Ah oui, déplaisant. Hein.
Alors on se demande à qui Duke Ellington pensait en donnant ce titre, mais ça, il ne l'a jamais dit.
Je crois que c'est un peu collectif parce que « tweets and twerps », ah ben j'y suis arrivé, c'est un vrai miracle, est écrit au pluriel.
Les nuls et les pénibles.
En fait, je crois que Duke Ellington, du haut de sa majesté, a ainsi désigné une sorte de populace indésirable dans les coulisses de ses concerts.
Mais ça n'est qu'une supposition de nous.
De nous, parce que ça peut aussi s'adresser aux indésirables de la critique. Oh là là, alors là, il y a du grain à moudre.
On ne va pas en dire plus.
Non, pour ne faire de tort à personne. En fait, ce morceau a été plus tard réintitulé, en raison de l'omniprésence du trompettiste Rex Stewart, Boy Meets Horn.
Suivant, c'est encore un mot d'argot, puisqu'il s'agit de « two deuces ». Alors, « deuces », c'était 2 dollars.
Oui, c'est le billet de 2 dollars que les joueurs évoquent, une sorte de mise minimum peut-être. Mais également, quand le 2 sort et qu'on joue au dé, le 2, il l'appelait aussi « deuce », comme ça. Et « two deuces », ça veut dire 4 dollars.
Alors là, on ne sait pas du tout à quoi Louis Armstrong fait allusion, parce que très souvent, quand ils avaient des titres à mettre, c'était des choses qui se passaient dans l'instant. Peut-être que ils ont trouvé que le steak qu'on leur a vendu était trop cher et ils en ont dit 4 dollars en riant ou quelque chose comme ça. Ça pouvait très bien être une plaisanterie de l'instant.
Ça pouvait être aussi une généralité tarifée. Là, on pourrait peut-être en rajouter une couche, mais nous ne le ferons pas, étant donné que cette émission passe à une heure où les jeunes oreilles peuvent aussi nous écouter. Quoi qu'il en soit, nous avons choisi la version de Louis Armstrong telle que enregistrée dans son autobiographie, c'est-à-dire avec le petit commentaire de présentation du père Armstrong, qui est d'une saveur absolument extraordinaire, et ensuite le morceau lui-même est vraiment très beau.
Now we're coming to a new period. This is where we begin to make the Hot Five records with none other than Earl Father Hines on the piano and my great old New Orleans buddy Zooty Singleton on drums. Our first record session was in June 1928 when we recorded this tune, For the Hard Way.
Ainsi se termine la lettre T. Et voici maintenant, pour commencer, la lettre U.
Comme on dit en Angleterre, you, ou en you. Amérique, you. Voilà.
D'ailleurs, il y a des gens qui vouent un culte à la lettre U, puisqu'on dit beaucoup « I love you ».
Allez, on s'arrête là.
Hein. On s'arrête. Donc, ça s'appelle
Upon Teddy's Hill.
Teddy Hill était un ancien chef d'orchestre de Big Band, d'ailleurs également de l'Alabama, comme Erskine Hawkins. Et après une carrière musicale pas très longue, il est devenu gérant d'une boîte qui s'appelait
le Mittens Playhouse. Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un playhouse ?
C'est un théâtre.
On joue, mais quand même, on y fait aussi de la musique, mais pas de la danse.
C'était un des rendez-vous pour les jam sessions entre musiciens après les heures de boulot.
Certains disent même que c'est là qu'a été créé le bebop. Le bebop, on vous en a déjà souvent parlé, c'est issu du jazz et puis après ça a pris son propre chemin.
Mais cette forme de musique a fait l'objet de telles controverses et de tels procédés allant jusqu'à changer des titres de morceaux pour démontrer que ceci ou que cela, que nous n'allons pas vous mêler à cette polémique, d'ailleurs totalement dépassée, parce que entre nous, vous n'entendrez pas de bebop sur la planète du jazz et d'ailleurs ça n'a pas très bien vieilli. Enfin, ça c'est notre avis, hein, c'est tout. En tout cas, là on n'entend pas du tout de bebop, malgré la présence d'un batteur qui va s'illustrer dans cette musique plus tard, qui était Kenny Clark. On va entendre surtout le grand Charlie Christian à la guitare, magnifique musicien disparu très jeune, puisqu'il est mort à 22 ans,
Oula.
À la fois de la tuberculose et d'une java absolument effrénée.
Il a vécu très très joyeusement et très brièvement.
Très joyeusement, couvert de femmes. Enfin, finalement, comme beaucoup de gens, c'est les femmes qui l'ont. Et ben, vous avez tout compris, ce morceau, le voilà. Thank you. Et voici maintenant Uproar, Shout.
Uproar, ça veut dire tapage, tumulte, vraiment du bruit.
Ah oui, en l'occurrence, c'est du tapage nocturne,
et
qualifié.
Et Shout, ça augmente encore, c'est un peu les hurlements.
Ah,
vous
c'est
voyez.
Les cris.
Donc, c'était une boîte où là, vraiment, ça y allait du point de vue des décibels.
Et c'est là que Erskine Hawkins, que nous avons tout à l'heure entendu dans son indicatif Tuxedo Junction, c'est là qu'Erskine Hawkins a débarqué pour la première fois. Son premier engagement venant de l'Alabama a été à cet endroit. Et donc, il lui a dédié ce morceau que nous allons entendre par l'orchestre de Erskine Hawkins. Mais il y a aussi une petite histoire à cette boîte, la manière dont elle a fermé.
Imaginez-vous que Mesro, qui était blanc...
Mais qui habitait Harlem et qui avait sur sa carte d'identité... Colored.
Voilà, il s'était fait mettre Colored pour ne pas avoir de problème quand il était avec ses copains noirs. Eh bien, il a quand même eu une idée. Il s'est dit, on va essayer de faire un orchestre mixte. Alors, ça ne veut pas dire hommes et femmes.
Ah non, là-bas, c'est autre chose.
Là-bas, ça veut dire et blanc.
Mixed band.
Et il l'a réalisé, justement à cet endroit-là.
Mais ça n'a pas duré très longtemps, parce que sous diverses inamicales pressions, l'établissement a fini par fermer.
Vous voyez, c'était pas facile hein, à l'époque.
Il y avait déjà eu quelques orchestres mixtes dans des studios d'enregistrement, mais ça n'était jamais arrivé dans un lieu public. Et même à New York, pourtant qui n'est pas dans le sud, hein,
ouais.
Même à New York, ça n'a pas pu perdurer à cette époque-là.
Dur, hein ?
Uproar Shout par Erskine Hawkins. Une fois arrivé à New York, le big band de Erskine Hawkins a été très influencé par celui de Jimmy Lunceford. Et les hasards de la lettre U nous mènent justement maintenant à Jimmy Lunceford.
Ce que vous allez entendre, c'est un blues. Alors vous me direz pourquoi vous parlez blues comme si c'était quelque chose de rare. Eh bien là, c'est un blues qui insiste bien sur le fait qu'il est blues, puisqu'il s'appelle Uptown Blues.
Uptown, c'est le nord de Manhattan et ça désigne chez les musiciens, naturellement, Harlem. Et pourquoi Jimmy Donaldson a tenu à enregistrer ce blues? C'est simplement parce qu'un critique, je dirais même un critique haillon, s'était permis d'écrire « Ah oui, le big band de Lunsford, formidable, hein, très bon musicien, magnifique, etc. Mais ils ne savent pas jouer le blues. » Alors là, les musiciens l'ont très 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 mal pris.
Ça a fâché.
Ah oui, ça a déplu même. Ils l'ont très mal pris et ils ont concocté un arrangement oral. On ne sait absolument pas qui a mis la main. Je pense que ça a été un peu collégial. Et ils ont enregistré ce Uptown Blues qui a réglé les comptes définitivement à ce genre de propos. Et ils ont tenu à insister là-dessus parce qu'on retrouve simplement le thème principal de Uptown Blues dans pas mal d'enregistrements en public de Jimmy Lunsford par la suite. Il a toujours gardé cette petite allusion pour bien rappeler qu'il n'était pas un orchestre à trois pattes et qu'il savait jouer le blues comme tout le monde. Et là, les solistes qui le prouvent abondamment sont l'alto Willie Smith et le jeune trompettiste qui allait faire son chemin, Snooky Young.
Le morceau suivant s'appelle Vernita Blues. Alors on se dit, oh, ça doit être un endroit Vernita au Mexique. Que non pas. Il s'agit en réalité de la petite copine du musicien qui va jouer, c'est-à-dire Sleepy John Estes. Et alors cette Vernita, bah, il n'a pas été verni avec. Hein.
Ah non.
Il a pourtant fait, comme vous allez le voir, un morceau pour elle. Mais après, elle lui a fait que des ennuis, cette femme-là.
Oui, il paraît, d'après ce que racontait Sleepy John Estes, il paraît que ce que Vernita n'avait pas fait pour enquiquiner son homme restait à inventer.
D'ailleurs, elle a fini par partir avec un autre. Bon.
Oui, elle avait épuisé son répertoire vis-à-vis de lui et donc elle a trouvé une autre victime et elle est allée continuer ses représentations avec quelqu'un d'autre, laissant le pauvre Sleepy John Estes à l'état de carpette. Cela étant, ce John Estes était un chanteur absolument prodigieux. C'était une des légendes du blues. savait même pas d'ailleurs à une époque ce qu'il était devenu. On pensait qu'il était mort. Et un jour, on a vu arriver un petit monsieur, tout petit. On a l'impression qu'on le collait au mur en soufflant dessus. Il avait une petite voix. Il était dans une sorte de caravane blues et gospel. Et on a appris que c'était Sleepy John Estes. Et écouter cet homme-là, nous en plus, on était juste derrière le rideau de scène, on était presque à le toucher. Écouter cet homme-là reste un des plus grands souvenirs. Alors ouvrez bien vos oreilles, parce que c'est un chanteur de blues pas ordinaire qui nous chante ce
Vernita Blues.
Morning. Honey, what you want me to do?
Ouais, ben cette Vernita, il voudrait bien qu'elle change un peu son comportement, hein, mais apparemment, c'est pas gagné. Et voici venir Uriel Montgomery.
Un drôle de petit bonhomme. Petit, effectivement. Il l'était puisque son surnom, c'est Little Brother. Drôle de petit bonhomme. Grassouillet, petit, l'air toujours un pas vide.
Ah oui, et légèrement souriant. Pas bavard pour un sou. Et avec comme couvre-chef une sorte de drôle de petit chapeau conique, un peu comme un des frères Marx, celui qui joue du piano. Il avait un aspect tout à fait étonnant.
Qu'il faisait un peu ressembler à une quille, voyez.
Mais pour le faire parler, on en était pour ses frais. Nous l'avons rencontré dans une tournée où il y avait beaucoup d'autres bluesmen. Heureusement, on a pu donc parler avec des gens qui avaient envie de parler. Et c'était surréaliste parce que c'était dans le hall d'un grand hôtel où cohabitaient, en attente de partir pour les balances et le concert, toute une troupe de bluesmen, dont certains tout à fait illustres. Et l'équipe de France d'athlétisme qui attendait, elle, de partir pour une compétition à Colombes ou ailleurs. Et donc, il y avait à la fois quelqu'un qui montait ses gammes de guitare et puis à quelques mètres de là, Hervé Dancausse qui faisait des exercices d'étirement pour sauter à la perche 2-3 heures après. Étonnant, étonnant. Ce Little Brother Montgomery, c'est pas tout à fait un bluesman. En fait, c'est un originaire de la Louisiane. Et on a avec lui un des très très rares représentants du style pianistique de la Nouvelle-Orléans. Et donc sa musique est très intéressante. Un blues dédié à une ville importante.
Cette ville, c'est Vicksburg. C'est un endroit important du Mississippi. C'est dans le delta. Et dans ce delta, il y avait une vie musicale incroyable, avec une quantité de bluesmen, soit blues des campagnes carrément, des types qui, itinérants, soit des gens qui s'étaient fait un petit peu plus connaître et qui commençaient à chanter dans des lieux publics, je dirais.
Oui, et puis qui commençaient à prendre le train pour Chicago aussi.
Et oui.
Mais il faut bien dire que le delta du Mississippi, donc qui n'est pas du tout l'embouchure, mais la région formée par le confluent entre la rivière Yazoo et le long fleuve paresseux qui est le Mississippi. Vicksburg est à l'extrême sud de ce delta du Mississippi si prolifique. Bref, vous avez compris que Vicksburg est un endroit important. Je propose de partir en balade rue des Vignes.
Alors, rue des Vignes, vous en avez à peu près une par village, que ce soit en France ou en Amérique. Donc, ce n'est pas très, très original. Mais Là, c'est à Kansas City.
Et elle s'appelle donc Vine Street. Kansas City, c'est une ville très importante pour le jazz, puisque tout un style y est né sous la houlette d'un célèbre gangster qui était maire de la ville. Et plus tard, après avoir quitté ce lieu bouillonnant, Count Basie a eu le souci d'enregistrer une Kansas City Suite. Il l'a fait arranger par Benny Carter et ils en ont tiré, entre autres,
Vine Street Ramble.
Autrement dit, Balade rue des Vignes.
Encore un amoureux de la rue des Vignes, mais cette fois-ci, c'est Jim McShan.
Jim McShan, pianiste complètement emblématique du style Kansas City, et c'est pour ça qu'il a dédié un morceau à cette rue illustre. Mais Jim McShan, c'est un personnage très impressionnant, parce que dès qu'il s'installe au piano et qu'il a joué une note, on est dans la musique jusqu'au cou, tout de suite. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de mise en train, il n'y a rien, c'est paf. Et nous avons découvert Jim McShan avec le petit orchestre que vous allez entendre avec lui, alors que c'était devenu une sorte de légende, on ne sait pas très bien qu'était devenu Jim McShan. Et un beau jour, on a appris qu'au Salon de la musique à Paris, à l'époque Gare d'Orsay, il y avait un orchestre de jazz dont le pianiste valait le déplacement. Nous nous sommes donc déplacés et nous sommes tombés sur ce pianiste formidable, dont le jeu est toujours pétri de blues, et d'ailleurs on va en avoir la preuve, puisque le morceau qui vient, c'est un blues d'une certaine catégorie, c'est un boogie-woogie, et ça s'appelle naturellement
Vine Street Boogie. C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.